Voici le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Quelque chose de pourri au royaume de Sciences Po. Deux professeurs accusés d'islamophobie à Grenoble. Leur nom placardé sur les murs du campus. Deux enseignants qui craignent pour leur sécurité aujourd'hui et dénoncent un terrorisme intellectuel. Le procureur ouvre une enquête. De nombreux généralistes voudraient bien, mais ne peuvent point. Comment vacciner quand on n'a pas les flacons? Une parole à contre-courant de la campagne de vaccination intensive lancée par le gouvernement ce week-end. Nous irons aussi à Minneapolis, États-Unis, J-1 avant le procès sous haute tension du meurtrier présumé de George Floyd. À Cordes-sur-Ciel, en pays occitan, cueillir des répunchous, quoi ça, vous verrez. Et dans Esprit Sport, à la veille de la journée internationale des droits des femmes, zoom sur un nouveau média dédié au sport féminin.
Et puis à 8h20, question ce matin à l'historienne Elisabeth Roudinesco. Elle vient de publier « Soi-même comme un roi », un essai sur les questions identitaires paru aux éditions du Seuil.
France Inter. Nouvelle polémique donc à Sciences Po. Les noms de deux professeurs accusés d'islamophobie placardés à l'entrée de l'IEP de Grenoble. Des professeurs traités de fascistes par un syndicat étudiant. Le procureur de la République a ouvert une enquête. Les détails avec Bastien Thomas, France Bleu Isère.
L'affaire remonte au mois de décembre dernier. Un colloque sur les questions d'islamophobie, d'antisémitisme et de racisme est organisé. Un professeur de civilisation et de langue allemande, Klaus Kinzler, s'offusque. Il n'accepte pas de voir le terme d'islamophobie à côté de l'antisémitisme et du racisme. Un communiqué est publié contre lui, lui reprochant son harcèlement moral. Sauf que ces allégations ont été reprises cette semaine par l'Union syndicale universitaire de Sciences Po Grenoble, qui s'en prend aussi à un autre professeur. Des affiches insultantes envers ces deux enseignants sont collées sur les murs de l'établissement vendredi. Des fascistes dans nos amphis, Tournier, Kinzler, démission, l'islamophobie tue. Voilà ce que l'on peut lire. La direction a porté plainte. Le parquet de Grenoble a lui ouvert une enquête pour injure publique et pour dégradation. Une enquête confiée au commissariat de Grenoble.
Depuis, Vincent Tournier fait courant distanciel. Klaus Kinzler lui est en arrêt de travail. Il craint pour sa sécurité, dénonce un terrorisme intellectuel. En 25 ans de carrière, dit-il, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, débattre de l'islam est impossible. En une ambiance délétère toute récente, dit encore Klaus Kinzler au micro de France Bleu Isère.
J'ai été mêlé à tous les débats, que ce soit Maastricht, que ce soit le contrat pour les jeunes, pour les blocages, pour les retraites, on se chamaillait, on se tapait dessus, mais après on était quand même encore copains et on se respectait. Cette année, tout a changé et c'est devenu vraiment irrespirable. Avec Vincent Tournier, on est les deux seuls à défendre encore des points de vue qui ne sont pas complètement conformes à la doxa extrême-gauche. Avec une partie des étudiants, ce n'est plus possible, c'est la guerre en fait. On nous traîne nommément dans la boue, sur les murs de mon lieu de travail, avec mon nom dessus, etc. Donc ça commence à être, surtout dans le contexte actuel, des attentats et surtout l'attentat contre Samuel Paty, etc. Ça peut être extrêmement grave.
Et les professeurs ont prévu une réunion de crise demain sur le campus de Sciences Po Grenoble.
La campagne d'injection massive s'intensifie depuis hier et jusqu'à ce soir.
130 000 doses supplémentaires envoyées dans les 23 départements sous surveillance. Des centaines de centres de vaccination ouverts depuis hier et jusqu'à ce soir dans des casernes, dans des stades. Et les premiers résultats sont là. 220 000 personnes vaccinées en 24 heures, deux fois plus que samedi dernier. Pour autant, avec 3,5 millions de Français qui ont reçu la première dose, on reste très loin des 20 millions promis pour la mi-mai. Alors, véritable opération coup de poing ou bien coup de com', de nombreux généralistes, en tout cas, assurent ne pas avoir suffisamment de munitions, y compris à Paris. Cécilia Arbona.
C'est un médecin de ville qui se transforme tous les matins en chasseur de vaccins.
Mon quotidien est extrêmement serré et bousculé depuis la semaine dernière.
L'obsession pour le docteur Richard Anchou, c'est de trouver des flacons d'AstraZeneca.
J'ai eu deux flacons et j'ai pu faire la première vaccination de 22 patients qui étaient tous demandeurs. J'ai recruté pour cette semaine 22 autres patients et quand je suis allé chez mon pharmacien hier pour chercher mes deux flacons, eh bien, il n'y était pas. Je n'ai pas de secrétaire. Et donc, je dois convoquer les patients, garder leur numéro de téléphone, avoir des patients en réserve si jamais un patient ne vient pas pour ne pas perdre de dose, puisque le flacon doit être utilisé quand même dans un délai extrêmement court une fois qu'il a été ouvert. Un ami installé à quelques pas de chez moi m'a téléphoné en me disant « Mon pharmacien n'a eu qu'un seul des deux flacons qu'il m'avait promis. Est-ce que tu pourrais m'en rétrocéder un ?» Il y a quand même un problème de logistique.
Pense-t-il pouvoir souffler un peu quand les pharmaciens vont commencer à vacciner ?
Lorsque ce sera ouvert à toutes les tranches d'âge. À ce moment-là, oui.
Le docteur Richard Anchou le dit clairement, pour réussir une campagne massive de vaccination, il faut proposer des piqûres à l'ensemble de la population, mais pour ça, il faut des vaccins. Beaucoup de vaccins.
Le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer, lui, beaucoup plus confiant dans le journal du dimanche ce matin. Le rythme de livraison des doses va s'accélérer, dit-il, 3 fois plus fort en mars-avril qu'en janvier. Alain Fischer, encore pour qui rendre obligatoire le vaccin chez les soignants ne serait pas une aberration. En dernier recours, en tout cas, la pression sur les soignants qui monte encore d'un cran, 1/3 seulement vaccinés, et un appel lancé dans la presse ce matin par les 7 ordres des professions de santé, médecins, infirmiers, kinés ou encore chirurgiens, tous d'une seule voix, parle d'un devoir déontologique. Soignant, faites-vous vacciner, c'est le titre. Un an de crise, un an de sacrifice. La scène nationale La Filature à Mulhouse a été l'un des tout premiers théâtres à fermer ses portes. Toujours vide aujourd'hui, contraint de se réinventer, Stéphane Capron, c'est une histoire de survie.
Benoît André avait pris ses fonctions de directeur de la Filature de Mulhouse début janvier 2020. 2 mois plus tard, il est contraint de fermer son théâtre.
Le 6 mars, j'ai été conduit à descendre au Grand Plateau pour annoncer à l'équipe qui avait monté le spectacle. Et nous avons donc dû annuler la représentation du père de Julien Gosselin qui avait fait le plein.
S'en suivent des jours de grande inquiétude alors que le reste de la France continue de vivre presque normalement.
Je découvrais cette ville, je suis arrivé moi début janvier, donc je ne la connaissais pas encore très très bien. Mais je garde vraiment en mémoire ce silence très 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 fort. Et j'ai l'impression qu'en dialoguant avec des personnes d'autres régions, ce n'était pas aussi puissant chez eux. Et le passage des hélicoptères qui revient de manière systématique dans les témoignages des Mulhousiens qui ont vécu cette période.
La pandémie n'a en tout cas pas entamé la volonté de Benoît André d'ouvrir son théâtre au plus grand nombre.
Le cœur de la ville est en grande partie habité par les personnes qui ont le moins de ressources. Ce public-là, très clairement, il ne vient pas à la Filature. La crise de Covid ne fait que renforcer ce besoin et nous permet de nous donner peut-être de nouveaux outils pour toucher de nouveaux publics.
En janvier, la Filature a maintenu son festival Les Vagamondes dans une version numérique, lui permettant ainsi de tripler son public.
Le théâtre, celui de l'Odéon à Paris, bien occupé celui-là par une 50aine d'artistes et la visite surprise hier soir de Roselyne Bachelot. Les dizaines d'intermittents qui dorment sur les strapontins depuis 3 nuits réclament la réouverture des lieux culturels et un plan d'aide massif. La ministre de la Culture n'a pas fait d'annonce, seulement cette petite phrase. On me présente parfois comme une fée carabosse qui fait ça par plaisir, mais on est tous dans la même galère, propos rapporté sur Twitter.
Minneapolis, États-Unis, avec le meurtrier présumé de George Floyd qui sera demain devant le tribunal. Ce sera un procès sous haute sécurité.
Procès du policier Derek Chauvin. On s'en souvient, la mort de George Floyd il y a 9 mois avait entraîné des nuits d'émeutes dans la ville. Au cœur de ce procès qui doit durer au moins 1 mois, les violences policières et les inégalités raciales. La ville s'est barricadée pour l'occasion. C'est un reportage de notre envoyé spécial Claude Guibal.
Les routes sont barrées le long des trottoirs, 2 rangées de murs de béton et au milieu des barbelés hérissés de lames de rasoir pour empêcher l'accès au bâtiment. C'est là, au cœur de Minneapolis, entre la 4e et la 6e rue, que se concentrent toutes les institutions. Le siège du gouvernement, le commissariat central, le tribunal, un quartier aux allures de camps retranchés.
Ils ont dépensé plus d'un demi-million de dollars en barrières autour des bâtiments publics. On manifeste contre les violences policières et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font venir des soldats. Des soldats. Ils font venir des soldats pour faire face à des manifestants pacifiques.
Michelle Gross ne décolère pas. Elle qui milite depuis toujours contre les violences policières est furieuse d'apprendre que plus de 2000 membres de la garde nationale et 1 millier de renforts policiers sont attendus pour le procès.
Pour moi, ça prouve que pour eux, le problème c'est plus les gens que la violence policière contre laquelle nous manifestons.
Après les émeutes monstres qui ont suivi la mort de George Floyd, les militants des droits civiques voient dans cette militarisation un moyen de faire peur à la population. La municipalité a également engagé des influenceurs pendant toute la durée du procès pour faire circuler des messages approuvés par la mairie pour limiter les risques de rassemblements émeutiers. À Minneapolis, Hélène Langlois, Claude Guibal, France Inter.
Le Sénégal, scène de guérilla urbaine depuis que l'opposant Ousmane Sonko a été arrêté et la révolte récupérée par les partis d'opposition. Le mouvement de la défense de la démocratie appelle les Sénégalais à descendre dans la rue pendant 3 jours à partir de demain, jour où Ousmane Sonko doit être présenté au juge. La Birmanie, au rythme des manifestations contre le coup d'état militaire, des milliers de personnes sont descendues dans les rues ce matin encore un peu partout dans le pays. Il y a déjà des blessés, la police a de nouveau tiré pour dispersés. En bref, encore avant son retour au Vatican, demain, troisième et dernier jour de la visite historique du pape en Irak. Au programme, rencontre avec les communautés chrétiennes qui ont fui Daesh à Mossoul. En ce moment, il ira le pape ensuite à Karakoche, puis à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien.
Une grande marche d'abord et puis une grève demain, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes.
Avec un avant-goût dès aujourd'hui, rassemblement à Paris cet après-midi, avec des associations de défense des droits des femmes réunies sous le nom On arrête toutes, les combats sont loin d'être terminés. Suzy Rothman, l'une des porte-parole.
On arrête toutes s'est créé l'an dernier pour montrer le rôle fondamental des femmes dans la société. Elles travaillent de façon salariée ou de façon indépendante, elles font le travail domestique, elles s'occupent en majorité des enfants, elles font les courses, elles s'occupent des personnes âgées, elles étudient aussi quand elles sont plus jeunes, elles sont victimes de violences. Ça montre vraiment le rôle fondamental des femmes dans la société. C'est quelque chose qu'on a repris d'autres pays du monde qui le font depuis un moment, la grève des femmes qui a commencé en 2016 avec les Polonaises qui ont fait grève pour l'avortement, suivi après des Argentines contre les violences, et puis dernièrement en Espagne, en Suisse, montrer le rôle fondamental des femmes dans la société. Et si on arrêtait toutes, qu'est-ce qui se passerait ?
La porte-parole du collectif des droits des femmes, jointe par Mathilde Dehimi, violences sexuelles et sexistes en entreprise. Ce sera le sujet tout à l'heure après le journal de 9h sur France Inter du magazine de la rédaction Interception. Enfin, une petite asperge verte trempée dans le café pour le petit déjeuner. Eh bien, pourquoi pas ? On vous emmène en balade pour terminer dans le village préféré des Français, Cordes-sur-Ciel dans le Tarn. C'est la saison de la cueillette qui commence un peu en avance, la faute au réchauffement climatique. Et ne dites surtout pas asperge, mais répounche Chousse, Louis Fontaine au cœur du pays occitan.
Des adeptes du répounchous, il y en a à Cordes-sur-Ciel, mais encore faut-il les trouver. Dans les rues pavées et étroites du village, la quête aux spécialistes commence. L'épicier du centre nous donne le nom d'un certain David. Il niche dans les hauteurs de la commune. Coup de chance, il est chez lui. Première leçon, la prononciation.
On dit répounchous. En roulant le R si on peut, c'est le nom occitan en fait.
Dans notre quête du répounchous, nous avons rencontré un pur cordé de naissance, Jean-Louis.
On a toujours consommé du répounchous. Alors on aime bien, ouais. Ben, on a été habitué à manger tout petit, donc on continue.
On a aussi compris que le répounchous était bien plus qu'une simple plante.
C'est un peu la tradition, voilà. Donc les gens donc, ben, vous en apportent parce que vous avez des voisins donc, qui vont cueillir et puis qu'il y en a un peu trop. C'est comme ça qu'on goûte les choses, hein, des produits du terroir, comme on dit. Hein.
Mais surtout, on espère ici que le répounchous deviendra un jour connu de tous.
Nous, on est pour que ça se répande le plus possible. D'ailleurs, on crie, chaque fois qu'on fait de la musique quelque part, on gueule. Légalisez le répounchous, légalisez le répounchous. Il y en a qui ont même cru que ça se fumer. Non, ça ne fait que se manger.
Si vous êtes de passage à Cordes-sur-Ciel dans les jours à venir, regardez bien les talus. Vous y verrez sûrement ce fameux répounchous.
Le répounchous enroule le R, ça ne se fume pas, Eric Delvaux. On a bien compris.
Et pourquoi pas un peu de sport pour digérer les répounchous. Ah ben, on va faire sans jingle, on y va pour les sports.
Deux clubs de Ligue 1 au tapis, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette, celui en tout cas de la Coupe de France. 16e de finale hier, c'est du foot. Le RC Lens battu par le Red Star, 3e division 3-2. Lorient chute face au Puy-en-Velay 1-0. En revanche, Paris s'en sort haut la main, 3-0 à Brest hier soir, à 4 jours du match retour face au Barça en Ligue des Champions. On en parlait dans le journal. Demain, 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Eh bien, ça marche aussi dans le sport. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Dans Esprit Sport, ce matin, gros plan sur un nouveau média dédié au sport féminin, ça s'appelle Abloc.
Et c'est un média en ligne où on prend le temps de rencontrer des sportives, quelle que soit leur discipline ou leur niveau. Une championne de badminton, une femme précurseur du hip-hop en Alsace qui déniche de nouveaux talents. Abloc existe depuis quelques mois seulement, mais il y a déjà des enseignements singuliers. Les articles les plus lus sont ceux qui parlent de cyclisme, de moto et de Formule 1 au féminin. Et quand le média a publié le témoignage d'une championne de moto qui a quitté le circuit pour cause de sexisme, ce sont essentiellement des hommes qui ont lu l'article. De quoi rendre perplexe la fondatrice d'Abloc, Valérie Domain.
Il y a 2/3 d'hommes qui sont venus lire cet article et que c'est eux qui s'engagent, en fait. Bon, il y en a toujours qui disent, voilà, rien à faire là, mais je veux dire, il y en a beaucoup qui ont écrit pour dire, mais nous, on s'engage, on veut qu'il y ait des femmes, on adore la mixité. Et on l'a pas, on n'a pas cette parole-là, ou peu, de la part des femmes. Donc en fait, il y a tout un travail à faire, c'est énorme.
Des enjeux sociétaux donc, mais aussi tout simplement raconter les bienfaits d'une pratique sportive, des bienfaits que Valérie Domain a ressentis. Elle qui s'est mise au sport à 48 ans seulement, après une séparation, elle voulait prendre modèle sur ses enfants.
Moi, cet état que je vis aujourd'hui, ce bénéfice que j'en ressors, cette faculté que j'ai aujourd'hui à pouvoir me réinventer, mais aussi m'imposer, m'épanouir, me réaliser dans tout ce que j'avais envie de faire finalement, est-ce que j'aurais pas aimé être inspirée par des témoignages, par d'autres femmes qui vivent ça.
Et voilà comment cette journaliste qui avait une solide expérience en presse féminine a eu l'idée de créer donc à bloc sur, elle l'a créé ce média sur ses fonds propres et le produit se développe à présent avec le bouche à oreille d'abord et surtout les communautés sur les réseaux sociaux. Il vient de signer avec son premier annonceur, l'équipe est passée de 2 à 4 personnes et surtout de plus en plus de sportives contactent cette équipe afin de proposer de partager leur expérience.
Et on est à bloc avec vous Laetitia Bernard pour un dimanche matin, merci.
Le journal était signé Hélène Roussel, le temps de ce dimanche.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Avec une France coupée en deux, hein, le nord d'un côté, le sud de l'autre, Jean-Michel Goulinski.
Une ambiance contrastée entre la moitié nord et les régions méridionales, tout d'abord en termes de température, avec de fréquentes gelées en début de journée, entre 0 et moins 6 degrés, du nord de la Loire en direction des frontières suisses et allemandes. Plus bas, les valeurs sont toutes positives, souvent entre 4 et 8 degrés, jusqu'à 12 à 7 et à Porto Vecchio. Cet après-midi, il est prévu 8 à 11 degrés sur les régions septentrionales, 12 à 15 plus au sud, jusqu'à 17 sur la Corse. Contraste également au niveau du ciel, souvent tout bleu au nord d'un axe Vendée-Franche-Comté, mais plus nébuleux en descendant vers le sud, avec des ondées plus fréquentes entre les Alpes et l'Aquitaine, de la neige en moyenne montagne et un risque de fortes averses sur la plaine languedocienne.
Jean-Michel Goulinski à Météo France.